Sur le pont des arts, Nathalie Amar.
Comme lui, porte un désir d'écrire plus fort que tout. Elle, comme lui, se bat pour un jour voir sa passion reconnue. Mais ni l'un ni l'autre n'est né du bon côté de l'histoire pour y parvenir. Martin Eden, le marin, héros du roman de Jack London, comme Eden, cette jeune femme noire, son double de théâtre aujourd'hui. C'est Alice Zeniter qui a eu l'idée d'adapter le roman sur scène et de transformer le héros en héroïne bien ancrée dans le 21e siècle. Sous sa plume, Eden travaille dans la blanchisserie d'un abattoir. Elle est entourée des collègues, toutes des femmes, et n'a Dieu que pour Rose, dont pourtant tout la sépare, l'éducation, la culture, la classe sociale. Une pièce portée par l'énergie de ses interprètes, Alice Zeniter et Camille Léon-Fucien sont nos invités sur le Pont des Arts. Bienvenue à toutes et à tous. Et bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alice Zeniter, plus d'un siècle après sa parution, Martin Eden, le roman, soulève des questions encore très actuelles. Pourquoi avez-vous choisi de le transposer dans le monde d'aujourd'hui avec uniquement des femmes, on l'a dit ?
Alors parce que comme vous l'avez dit, les questions que le roman pose sont encore très actuelles, à savoir qu'est-ce qui fait que dans des vies qui a priori sont pas du tout destinées à produire de l'art et qu'on pense pas du tout comme à des vies étant faites pour l'art, que ce soit pour le créer ou même en tant que spectateur ou spectatrice, qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a une rencontre qui est possible et qui fait que l'art va allumer cette vie et la brûler en entier. Et London dans son livre traite un peu cette question-là en la prenant uniquement du point de vue des hommes, parce que pour lui, la création artistique, elle émane forcément d'une force virile. Et donc, reprendre ces questions-là dans tout ce qu'elles ont d'actuel, mais en le faisant avec que des femmes dans l'équipe de création, c'est une manière de répondre en disant les questions sur l'art, elles sont toujours brûlantes. En revanche, t'as laissé une moitié de la population à côté, donc nous, on va l'englober.
Camille Léon-Fucien, vous êtes une Eden convaincante, touchante, et ce rôle, vous le vouliez, hein ?
Oui.
Comme Eden veut son succès, vous aviez la conviction que ce serait pour vous.
Je ne sais pas si j'avais la conviction que ce serait pour moi, mais j'avais la conviction que je voulais travailler avec Alice. Et puis quand j'ai découvert l'équipe, j'avais la conviction qu'il fallait qu'on soit tout ensemble. Et quand j'ai découvert la pièce, je me suis dit, let's go, c'est incroyable, je vais en être.
Camille Léon-Fucien, Alice Zeniter, on va vous entraîner à Marseille pour En Piste, la nouvelle exposition de Macha Makeyev. Bonjour Léopold Picot.
Bonjour.
Visite guidée avec vous au MUCEM, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.
Oui, et le but c'est de découvrir le monde de la scène et du cirque. C'est un monde teinté de mélancolie et de couleurs, de clowns tristes et de lions magnifiques.
Et puis le hit de la semaine, à Dakar aujourd'hui avec Sadio Doucouré de la rédaction en mandinquant et full des RFI. On écoutera la rumba mandingue de Sidiki Diabaté. Et voilà la preuve que la rumba, ce n'est pas seulement au Congo.
RFI, sur le pont des arts.
Tu sais, moi j'ai essayé de faire des cours du soir au début que j'étais ici, mais c'est hyper tard.
Oh les cons, ils ont mis les cours du soir le soir.
Arrête toi. Je m'endormais tout le temps, j'arrivais pas à rendre les devoirs. Je voulais me poser avec une bière et parler avec mes copines. C'est pas une heure pour étudier. Ou alors c'est moi. Peut-être que je suis nulle à chier, c'est possible aussi, hein, sinon je serais pas là.
Tu dis quoi là ?
Je dis juste que je le saurais si j'aurais pu être ingénieur, c'est tout.
Tu voulais faire quoi ?
Éducatrice ou un truc du genre, tu vois. Péréricultrice peut-être,
Ouais, faudrait déjà que t'arrives à le prononcer.
Bon, ben, ça va.
Voilà, extrait de cette pièce Eden qui est jouée en ce moment au Théâtre Public de Montreuil près de Paris. On est dans le vif du sujet, Alice Zeniter, cette discussion entre collègues sur ce qu'elles auraient pu ou voulu être. Alors, elles discutent tout en accomplissant, hein, on raconte à nos auditeurs les gestes répétitifs de plier le linge, plier les costumes. Eden, Alice Zeniter, elle est de ce monde des blanchisseuses, mais pas tout à fait. Elle apparaît décalée parce qu'elle sait, elle, que son rêve est plus grand. Elle veut écrire. C'est ça qui l'habite.
Oui, en fait, elle est assez consciente qu'elle a besoin, en fait, d'avoir une certaine somme d'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, payer son loyer. Et puis finalement, les nouveaux coûts qu'amène une vie d'écriture, c'est-à-dire il faut imprimer ses manuscrits, il faut les relier, il faut les envoyer aux maisons d'édition. Et donc, les boulots, en fait, ils permettent juste d'avoir ces petites sommes pour pouvoir vivre. Mais elle ne se sent pas, faire partie complètement de ce groupe des lingères. Elle le répète plusieurs fois. D'ailleurs, je ne fais que passer, moi, je ne vais pas rester,
Je suis d'ailleurs, en fait. Ouais. Hein, parce que la question qui traverse cette pièce, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'écrire, qu'on est habité en quelque sorte par ce désir quand on vient d'un milieu qui est complètement étranger à l'art?
Ouais, et qu'est-ce qui fait qu'on tient aussi? C'est-à-dire quand autour de nous, tout le monde nous dit « Mais non, personne ici écrit des livres Eden », ce qui est une des répliques de Gigi, qui est l'amie et la colocataire de Eden. Et que dans le milieu d'arrivée aussi, dans le monde de la littérature, en fait, il y a un classisme qui fait que ce qu'on vous renvoie, c'est « Ah ben non. »
Tu vas pas y arriver.
Oui, c'est ça. Écoutez, rentrez chez vous, faites des choses que vous savez faire, parce que là, clairement, en fait,
Il y a une scène terrible à la bibliothèque, lorsqu'elle se retrouve confrontée à cette bibliothécaire qui est un peu méprisante avec elle, qui ne la prend pas tout à fait au sérieux, Camille Léon-Fussien.
Alors, je dirais
au démarrage.
Je dirais qu'elle est pas du tout méprisante, à l'inverse. Je dirais qu'elle est amoureuse de ses livres et de sa bibliothèque et qu'elle
elle voit arriver Eden un peu comme une intruse, c'est ce qu'on disait.
Oui,
à l'instant.
Elle la repère tout de suite, comme une personne qui a pas l'habitude d'aller à la bibliothèque. Et Eden arrive avec cette sorte d'armure de, OK, je suis parée à tout. Je sais qu'on va me dire que c'est pas pour moi, mais je vais y aller.
Parce qu'elle y va fort. Elle dit qu'elle veut s'attaquer à Lacan, à Bourdieu, à Marx. Elle n'a pas froid aux yeux.
Non, parce qu'elle revient du cinéma où elle a vu Land and Freedom et qu'elle se dit c'est incroyable, ouais. Et qu'elle veut tout connaître de tout ça. Mais la bibliothécaire, elle est plutôt une aide qui peut paraître un peu brutale à des moments, un peu contre elle, mais en fait, pas du tout. Enfin, elles ont vraiment une relation...
La relation se crée au fil de la pièce, mais le premier contact est un peu compliqué.
Oui, je pense que c'est aussi comment Eden arrive dans la bibliothèque qui fait que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sait qu'on va nous dire que c'est pas pour nous, on y va avec une surarmure, quoi.
Ouais. Ce personnage d'Eden, donc on l'a dit, hein, travaille le jour, écrit la nuit, n'a même pas en poche de quoi acheter le timbre pour envoyer les manuscrits aux éditeurs. Mais elle garde la foi, même si tout le monde autour d'elle tente de la décourager.
Oui, elle n'a pas le choix. Oui, peut-être.
Vous avez voulu ce rôle d'Eden avec Alice Zeniter.
J'en sais rien. Je crois que c'était plus facile dans ce procédé-là parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Alice et que j'ai lu la pièce et qu'on en a discuté, j'ai eu aucune part d'ombre. Donc en fait, j'ai pas eu à garder la foi. Juste, j'étais très heureuse de découvrir que je pouvais travailler avec quelqu'une qui suit ce à quoi je m'attelle dans la vie et politiquement et socialement et humainement. Donc j'ai eu aucun problème et dans l'équipe, c'est pareil. Donc je crois que en revanche, au plateau, pour Eden, il faut toujours trouver un moteur. Et son moteur, c'est l'amour du beau. C'est la découverte du beau, c'est la soif et c'est les promesses. Alice, elle en parlait il y a quelques jours au TPM. C'est les promesses de grandeur, de beauté et d'absolu, en fait. C'est ça qui font qu'on garde espoir, je pense.
Ouais, et c'est tout cela qui est inclus, Alice Zeniter, dans le roman de Jack London, Martin Eden. C'est un livre que vous avez rencontré adolescente aussi?
Oui, et que j'ai beaucoup relu, et je crois que Évidemment, en fait, c'est quelque chose qui me touche comme, comme parcours d'écrivain. Je pense aussi que, en fait, les représentations d'écrivains pauvres, elles sont tellement peu nombreuses que, possiblement, moi, je me suis sentie autorisée par ce portrait-là. Mm-hmm. Un portrait qui n'était pas, l'autobiographie de Sartre, qui n'était pas un écrivain qui avait grandi à côté du jardin du Luxembourg, en ayant des bibliothèques immenses chez lui, qui était juste un petit gars qui débarquait et qui,
et qui avait envie, comme
je disais Camille, qui tout à coup découvrait le sublime, l'absolu, et disait « c'est ça que je veux et qu'on ne pouvait plus débrancher. Et au-delà de cette question de la rencontre avec l'art, il y a aussi une chose, et que j'espère qu'il y a aussi dans le spectacle, mais il y a un truc du roman d'apprentissage qui peut parler à tout le monde, c'est-à-dire on a aussi l'impression que ça raconte ce que c'est tout simplement d'apprendre les codes d'un milieu qu'on connaît pas au départ. Et donc ça raconte un peu ce que c'est de grandir aussi. Qu'est-ce que c'est d'arriver dans le monde des adultes et de pas savoir quoi faire et d'avoir peur de se faire griller comme étant un ou une éternelle enfant.
Alors, ce que l'on entend là, c'est le joli sound design, la musique électro qui accompagne la pièce, en particulier ce moment où les blanchisseuses à l'île zénitaire se mettent en grève. Le parti pris de la mise en scène, c'est de juxtaposer sur un plateau ouvert, un large plateau, le salon bourgeois, la blanchisserie et la petite mezzanine où Eden travaille, lit, écrit, réfléchit à son avenir et refait le monde. Ça rend le contraste entre ces mondes-là encore plus fort, en fait, visuellement.
Oui, et puis ça permet, en fait, à une des traductions du concept de code switching, c'est-à-dire le fait qu'on est transfuge de classe, on a les codes du milieu de départ et les codes du milieu d'arrivée, et on est en permanence, on doit en permanence en changer pour se faire accepter comme appartenant au milieu 1 ou au milieu 2. Une des traductions qui a été proposée en français dans les sciences sociales, c'est le concept de cheval à bascule. Et là, ce qu'on peut montrer au plateau, c'est vraiment ça, c'est-à-dire les autres comédiennes, enfin dans leur personnage, elles appartiennent vraiment à tel ou tel espace. Mais Camille, en Eden, elle va d'un bout à un autre du plateau, elle bascule
elle
en permanence.
Voilà.
C'est elle qui peut les lier et elle est la seule.
Mmh. Et c'est elle qui a envie de pénétrer ce monde-là qui n'est pas le sien.
Et de ne pas abandonner le monde dont elle vient non plus. Et donc il y a une nécessité en fait, de tout le temps bouger, d'aller courtiser les unes, rassurer les autres, etc. Qui fait que c'est un élément extrêmement mobile dans ce plateau qui représente les différents espaces sociaux.
Mmh. Camille, Lyon Fucien, vous nous avez dit votre envie, j'allais dire viscérale, de travailler à un moment donné avec Alice Zénitaire. Est-ce que c'est aussi l'évocation des inégalités sociales dans cette pièce, qui est évidemment très présente, qui vous a rapproché de ce texte et de cette autrice ?
Et je crois qu'elles ne sont pas évoquées, je crois qu'elles sont juste posées sur le plateau, en fait.
c'est ce qu'on vient de dire.
J'ai pas le sentiment qu'elles soient... Non, mais parce que pour moi, dans l'évocation, il y a quelque chose de très doux et de très... où on caresse. En fait, c'est d'une violence inouïe, en fait, ce qui se passe, que ce soit dans les relations...
On se retrouve face à elles, voilà.
On se retrouve, ouais, on se retrouve le nez dedans, enfin, c'est très compliqué. Et oui, je suis très contente de pouvoir... porter ça et de pouvoir rencontrer cette parole-là parce qu'en effet, en fait, c'est quelque chose que je vis sans doute tous les jours, que je vis de par mon métier. Je représente tout de suite quelque chose. J'arrive, je suis une comédienne, je suis noire, je suis de fait un étendard, et en fait, c'est violent. Et en fait, le fait que ce soit mis sur le plateau, que ma personne physiquement ne puisse pas être neutre, bah, c'était hyper intéressant pour moi à défendre. Et comment est-ce qu'on l'a travaillé? Pour moi, me fait du bien. Enfin, j'ai pas l'impression de là justement être un drapeau que Alice agite et dit. Regardez,
juste vous-même.
Ouais, je suis pas moi, je suis Eden, quoi. Et c'est cool, c'est cool pour ça.
Quand vous dites c'est violent, ça signifie quoi en fait, précisément?
Ça signifie que c'est percutant pour moi. Eden, il y a vraiment cette traversée où en fait, petit à petit dans la pièce, elle prend des coups Il y a des entailles et à un moment donné, c'est comme une bâche pleine de trous, en fait, à la fin pour moi, Eden, parce qu'elle est perforée de partout et elle n'arrive plus à recoudre, en fait. C'est trop dur. Et elle a fait face à ces micro-violences dans son milieu, dans le milieu auquel elle veut appartenir. Et c'est trop dur. Elle se craquelle. Voilà.
Et quand vous parlez de violence, c'est vrai qu'il y a visuellement des scènes qui marquent en tant que spectateur et qui doivent marquer certainement le public du théâtre de Montreuil quand les blouses ensanglantées de l'abattoir se déversent quasiment sur la tête des blanchisseuses. Elles sont en fait au sous-sol de cet abattoir et elles récupèrent toute la lie en fait et toute la saleté de ce monde d'en haut.
Mais ce qu'étaient les conditions de travail réelles de l'abattoir où je suis allée en fait pour me renseigner sur le travail de ces femmes et d'ailleurs une partie des dialogues des lingères de Chris, Nat, Gwen c'est des choses qui remontent de la collecte de parole avec les lingères de l'abattoir
parce que l'abattoir juste pour préciser il n'est pas dans le roman de Jack London,
c'est une blanchisserie d'hôtel dans le roman de London,
c'est une blanchisserie d'hôtel. Et vous, ça fait écho à quelqu'un que vous avez rencontré dans la vraie vie, à une amie qui vous a parlé de cet abattoir en Bretagne.
Bah, qui me disait, en fait, dans les annonces que je vois passer sur le territoire, il y a celle-là qui revient tout le temps. Et ça avait presque une dimension ogresque. C'était de se dire à un moment, je vais lâcher et au lieu de continuer à chercher quelque chose qui me ressemble et qui est mon travail, je vais accepter cette offre parce qu'il y a l'air d'y avoir tout le temps du travail dans la blanchisserie de l'abattoir. Et il y a quelque chose d'assez effrayant là-dedans. Ouais. Et il se trouve qu'en effet, la blanchisserie, elle est conçue de telle manière que quand les hommes sortent du département de la tuerie, ils envoient leurs blouses ensanglantées dans une grande ouverture et que ces blouses ensanglantées, elles tombent dans la blanchisserie où nous, on était en sous-sol et qu'on voit pleuvoir en fait ces vêtements tachés de sang qu'il faut nettoyer, qu'il faut rendre tout blanc pour que l'abattoir puisse continuer à tourner en permanence. Voilà.
Donc vous êtes allé voir l'abattoir et puis vous avez fait appel aussi pour évoquer et peut-être pour faire sentir cette condition de jeune auteur qui n'a pas forcément les moyens d'accéder à son rêve. Vous vous êtes nourri aussi de témoignages à travers le label Jeune texte en liberté de Penda Diouf notamment. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté ces jeunes écrivains ? C'est exactement ce que vous mettez dans la pièce ?
Il y a beaucoup de choses évidemment qui ont trouvé leur chemin jusqu'à la pièce, sachant qu'au départ, moi, je leur avais envoyé un questionnaire qui était basé sur le roman de London. Et ce qu'on voit en fait, c'est que d'une manière assez terrible et implacable, les choses n'ont pas changé. Ces jeunes auteurs et autrices me parlent de la même précarité, me parlent des mêmes promesses non tenues, me parlent des mêmes réactions classistes en fait dans le monde. Et surtout c'est ça qui est très triste quand Camille parlait de violence. Je pense qu'une des choses qui est le plus violente dans le parcours d'Eden et dans le parcours de ces jeunes auteurs et autrices, c'est ce monde dans lequel ils veulent entrer, vraiment, ils le désirent comme étant porteur de toutes les promesses. Ils se disent, les artistes, les éditeurs, les gens qui font du théâtre sont forcément des personnes merveilleuses, radieuses, parce qu'elles sont imbibées d'art, elles pensent pour l'art, elles vivent pour l'art.
Or,
ces gens doivent être merveilleux. Et ils découvrent, en fait, des petits faiseurs de rois, des petites mesquineries, des gens qui les excluent, des gens qui disent, non, genre, ça, d'accord, mais pas ça. Voilà, les détenteurs du bon goût qui ont une mesquinerie. Et c'est ce que Eden va dire à Rose à la fin de la pièce, en fait, tout à coup, je vois comme tout en toi est petit et mesquin. Et ça, c'est encore plus dur quand on a cru que ces gens-là étaient tout.
Et on va parler de Rose dans un instant.
Trésor, 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 idée cachée. c'est le zénith. Quoi d'un virage, tu t'éclipses. Dans le ciel, toi tu gravites.
Encore avec le duo Walter Astral et ce titre issu de la playlist RFI Zénith. Elles étaient presque en train de danser, Camille Léon Fussien et Alice Zénithère, dans le studio d'RFI. Alors dans Martin Eden, le héros n'a Dieu que pour Ruth, une jeune femme de la bourgeoisie. C'est elle aussi qui le pousse à écrire parce qu'il veut la séduire, hein, en devenant auteur. Ici, Eden est poussé par son amour pour une autre femme. C'est une autre façon pour vous, Alice Zénithère, de rendre le texte plus actuel, de l'ancrer dans aujourd'hui ?
Non. non. Alors là, pour le coup, en fait, pour moi, le geste artistique qui m'importait au départ, c'était donc à la fois de réunir une équipe de femmes, comme on en a déjà parlé, pour créer ce spectacle, et puis en fait d'avoir des grands rôles féminins au début. Donc, et c'était une évidence pour moi que Eden serait une autrice aussi, parce que c'est l'expérience que moi j'ai et que j'avais envie de raconter. Et puis en fait, en regardant les autres rôles, je me disais, mais tiens, mais celui-là, si on le bascule en fait aussi d'homme à femme, ça fait un rôle génial qu'on a peu vu jouer, et celui-là aussi. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, donc en fait,
c'était évident.
En fait, j'ai envie que tous les rôles y soient portés par des comédiennes à qui je vais donner une partition qui sera belle. Et du coup, dans ce monde-là, ben en fait, la question d'un amour entre femmes est la seule option possible. Alors quand on me dit, mais du coup, Eden et Rose, elles sont lesbiennes, je dis, ben non. Enfin, ou alors dans ces cas-là, tout le monde est lesbienne. Et du coup, ça n'a plus de sens, parce qu'être lesbienne, c'est une sexualité minoritaire dans une société hétérosexuelle. Là, c'est juste, ben, en fait, comme tous les rôles sont portés par... tous les rôles, je n'ai pas d'accent du sud,
tous les rôles sont
portés par des femmes, ben, toutes les histoires d'amour, elles ont forcément lieu entre ces femmes, comme les histoires de jalousie, de déchirement, de domination, etc.
Ouais.
Ben, tout a lieu entre femmes.
Et pour vous, Camille Léon Fussien, c'était identique, et c'était égal de jouer cet amour-là avec un homme, avec une femme ?
Ah bah, de toute façon, dans notre monde, les hommes n'existent pas, donc identique...
Il n'y en a pas un seul sur scène.
Non, il n'y en a pas un seul sur scène. Identique, j'en sais rien, mais agréable en tout cas. C'est trop chouette de jouer qu'avec des femmes. Je pense que la question de la domination se serait posée différemment s'il y avait eu des hommes dans ce monde-là. Mais là, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir se dire qu'en fait, ça existe tout de même. Enfin, le fait que ce soit qu'un monde de femmes ne rend pas ce monde tout rose, si je puis me permettre.
Voilà, rencontre entre deux femmes et rencontre improbable, surtout entre ces deux mondes. On écoute un nouvel extrait de la pièce.
J'ai beaucoup repensé au morceau de violon que tu as joué. C'était tellement beau. C'était quoi ?
Le rêve de ma mère, avoir une fille qui joue du Bach.
Et toi ?
Moi quoi?
Ça te fait rien, cette beauté-là?
Je...
Genre, tout est tellement beau dans ta vie qu'un peu plus ou un peu moins, tu verrais pas la différence.
C'est pas ça. J'aurais voulu trouver quelque chose qui soit à moi, pas un truc irrité. Le violon, c'est une sorte de devoir familial.
Et ton truc à toi, c'est quoi?
Rien, apparemment.
Comment ça?
Le cinéma. Mais j'ai pas tenu, alors retour à l'université.
Et c'est pas bien, ça?
Dans ma famille, c'est pas franchement assez. Tout le monde a des diplômes et un truc en plus. Moi, j'ai pas de truc en plus. Tu as fait des études, toi?
Ouais, bac moins 2. Je suis partie vite.
La rencontre entre Eden et Rose, la rencontre entre ces deux mondes, où on comprend aussi que Rose, même avec sa vie dorée, qui, vous, de l'extérieur, peut vous paraître enviable ou en tout cas si différente, elle nage pas dans le bonheur non plus. Elle est un peu le vilain canard de la famille.
Oui, elle est mélancolique. Elle est triste, cette Rose interprétée par Leslie Boucher. Elle est belle, triste et elle arrive à toucher Eden parce que c'est un peu une forme de, comment dire, d'exemple de littérature, quoi. C'est ça qui se passe dans la littérature, c'est que c'est beau, c'est triste et ça a cette fin qui nous emporte avec nous et on sait pas quoi en faire et on a envie de sauver ce personnage et on sait pas quoi faire et je pense que Eden, elle a franchement envie de sauver Rose. Mmh.
Alice Zeniter avec L'Art de Perdre en 2017, vous vous interrogiez entre autres sur la question de la transmission d'une culture, d'une génération à l'autre. Le roman d'ailleurs avait obtenu le Goncourt des lycéens. Un peu comme la pièce Eden, c'est un livre qui s'adressait aux jeunes générations. C'est important pour vous? On a l'impression que vous parlez à cette génération-là.
C'est important pour moi que ça s'adresse à plusieurs générations à la fois. Et je crois que là, au TPM, ce qui me rend très heureuse tous les soirs où on joue, c'est de voir que depuis
les générations
les scolaires, voilà,
ouais.
Qui sont là, à partir de la troisième jusqu'aux têtes blanches, il y a une écoute du spectacle, il y a des rires, il y a une appréciation du spectacle, et ça finalement c'est hyper beau en fait de pouvoir réunir les générations dans la même appréciation d'une œuvre culturelle.
Il y a toujours en toile de fond la question de l'héritage, de la colonisation. C'était aussi le cas dans Frapper l'épopée qui se passe en Nouvelle-Calédonie avec une héroïne qui a quitté le caillou, qui revient, qui s'intéresse à cet héritage. Vous me confirmez que c'est une thématique importante pour vous?
C'est très important pour moi et en fait c'est malheureusement inépuisable parce que la France a eu un empire colonial suffisamment grand et suffisamment long pour qu'il reste encore énormément d'histoires à raconter sur tout ce que ça a pu nous faire et dans le nous, je parle à la fois là des populations qui ont colonisé, de celles qui ont été colonisées, c'est des choses qui ont laissé des marques en fait et qui font partie de nos histoires à la fois intimes, nationales et internationales et qu'on nomme encore de manière très très timide. Mmh. Or il va falloir qu'on les nomme franchement pour pouvoir s'en défaire.
Camille Léon-Fucien, vous avez l'impression vous aussi d'hériter de cette histoire de la colonisation, de la décolonisation dans votre parcours personnel et dans votre parcours d'actrice?
Tout à fait. Oui, bien sûr. C'est pas rien, en fait, d'être une femme noire dans le milieu de la culture. Et puis, ma famille est arrivée en France par mes grands-parents, donc il y a quelque chose où j'ai dû apprendre ce que c'était de perdre ses racines finalement. Et puis il y a quelque chose aussi quand on arrive dans le milieu de la culture en fait qui est assez fou. Enfin moi j'ai pas du tout une famille qui vient de ce milieu-là et tout de suite il y a quelque chose d'assez fou qui s'opère où on devient un transfuge malgré soi, enfin, où moi je vois que j'ai les codes, je vois que j'ai appris des codes et que ma famille, quand ils viennent au théâtre, ils me voient évoluer dans des codes qui n'étaient pas les nôtres, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever avec la culture, quoi. Enfin, donc oui, je dirais que oui, mais je ne sais pas si... Je sais pas si c'est ce qui me porte tout le temps, quoi. Je sais pas. Je pense qu'il y a une rage qui me porte, mais je crois qu'elle est plutôt sur le fait de comment est-ce que je le vois aujourd'hui, quoi. Comment est-ce que aujourd'hui, ça, c'est encore prenant? poignant dans les générations que je vois plus jeunes que moi, qui se disent que c'est pas pour elles, que le théâtre, qu'est-ce que je vais y faire, je vais m'ennuyer, ou alors je vais pas comprendre. Et pour moi, c'est là que c'est important et que je vois l'héritage et qu'il m'énerve et que j'ai envie de le terrasser, quoi.
La pièce, on la situe en Bretagne, mais c'est à Marseille qu'Eden a été créée en 2024, c'est
à
ça ?
Valence.
À Valence.
Alors, on est parti jouer à Marseille. Alors, immédiatement après. D'accord. C'est deux belles maisons de théâtre où je suis artiste associée, Valence et Marseille.
Voilà, Valence et Marseille, théâtre de la Criée. C'est un lieu, une scène, Alice Zénithère, qui vous corresponde ? Cette scène du théâtre de la Criée ?
Alors, c'est vraiment un endroit qui est formidable. Je vais faire non pas mon artiste, mais ma petite touriste. En fait, je trouve ça merveilleux de sortir du théâtre et d'être sur le vieux port, de regarder la mer et d'avoir cet environnement. Et puisqu'on parlait de nos passés, de nos héritages coloniaux, en fait, il faut savoir que moi, je suis allée très tard en Algérie pour la première fois. J'avais 25 ans, voire plus. Et pendant très longtemps, en fait, puisque je j'avais jamais vu l'Algérie, que j'avais même finalement assez peu d'images,
assez peu de liens,
je
ouais.
descendais à Marseille et je me disais ça doit être comme ça Alger, mais de l'autre côté, donc une sorte de, voilà, juste de symétrie inversée, et je me disais je me représentais Alger à partir de Marseille, et donc j'ai ce lien fictif familial avec ouais. Marseille.
Et ben on y va justement à Marseille. Les saltimbanques, les clowns, les trapézistes, actrices, acteurs et même lions et autruches, ils nous font rêver au cirque et sur scène. Mais que reste-t-il lorsque s'éteignent les applaudissements, lorsque tombe le costume et que la magie s'étiole ? Léopold de Picot, vous êtes basé à Marseille, vous avez visité pour nous au Mucem une exposition en piste, fruit du travail de Macha Makeyev et du conservateur du Mucem, Vincent Giovannoni. La metteuse en scène, il clame, il crie son amour du cirque et du spectacle vivant.
Oui, absolument. Et les deux commissaires m'ont fait visiter cette exposition colorée mi-janvier. Elle est articulée autour de costumes et d'objets de cirque des siècles passés, de tableaux de maîtres et de films colorés, et même d'animaux empaillés. L'exposition vous introduit dans le monde du cirque dès les premiers pas. Suivons Macha Makeyev.
Alors il y a deux lieux, il y a le vestibule dans lequel nous sommes, où il y a déjà des œuvres d'art contemporaine, des choses, des raretés comme ce dessin du XVIe siècle, et vont dialoguer des œuvres d'art comme celle de Badinci, et puis des objets usés, fatigués, étonnants, abandonnés, déclassés qui sont là et qui ont une force poétique incroyable. Et puis là, il y a l'estrade du bénimenteur avec deux grands tableaux qui prennent la parole eux-mêmes, qui vont vous raconter ce que vous allez voir quand vous allez passer les rideaux de scène et que vous allez entrer dans la grande nef.
Et donc dans cette grande nef, c'est un festival des costumes, des autruches, des cordes et surtout de la couleur.
Alors, ce sont beaucoup de couleurs primaires avec des jaunes que j'aime beaucoup. Vous avez raison, il y a une géométrie des couleurs qui correspond vraiment au rythme d'un spectacle. Évidemment, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas. Voilà, donc forcément, il fallait trouver une énergie, une rythmique. Et ça, c'est par la géométrie, par les couleurs. Il y a des rouges, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des verts, il y a des bleus. Et sans arrêt, quelque chose a l'air de danser, non ? Et a l'air de circuler comme au fond, comme un tableau, j'espère, de faire temps léger. Voilà, ça bouge pas et ça bouge ici aussi, j'espère.
Il y a donc des jeux d'ombre tout à fait inattendus qui surgissent, dont nous avons été les premiers surpris et que nous trouvons magnifiques. Et c'est aussi un cadeau que nous faisons public.
Comme quelle ombre ?
L'ombre de cette autruche, l'ombre de cette œuvre de Valenzi enfilée qui se projette sur les agrès du Mucem, l'ombre de cet acrobate incroyable ou improbable plutôt, faite par Niki de Saint-Phalle. Tout ça, ça semble ensemble. Ces pièces sont à la fois séparées, sont dans un même espace circulaire, mais leurs ombres se touchent. Elles sont assemblées, elles sont en proximité, elles se parlent, elles échangent.
Et pour cette expo, Macha Makaïev et Vincent Giovannoni se sont plongés dans les réserves du MUCEM.
Oui, parce qu'elles contiennent 450 000 objets. Ils sont allés aussi puiser dans celles du musée Pompidou, du musée Picasso. Et ils ont été aidés par un collectionneur privé un peu particulier, le docteur Frère.
Ce collectionneur privé, qui a maintenant plus de 80 ans, a constitué sa collection durant une soixantaine d'années, donc c'est le travail d'une vie. Et quand Macha dit que pour cette exposition, il nous a fallu 2 ans et demi de travail, la réalité des choses, c'est que en amont, ces 2 ans, 2 ans et demi, il y a 15, 20, 30, 40 ans de réflexion.
Il s'occupait du corps des saltimbanques. Si un danteur se faisait arracher la moitié du bras, il était là. Si un funambule tombait, se brisait la cheville, il était là. Il y avait ce rapport à ce corps qui est un corps inouï.
Les artistes, notamment du domaine du cirque, qui constitue la base des collections de Dr Frère, sont des artistes dont l'expression est basée sur le corps. Et la proximité qu'ils ont eue chacun avec le Dr Frère vient du fait que le Dr Frère apportait une attention extraordinaire à leur corps, ce premier outil.
Et l'exposition, Léopold, a une particularité, c'est qu'une fois passé le vestibule, le spectateur fait le choix de ce qu'il veut voir.
Oui, il faut imaginer une exposition qui se visite dans tous les sens, dans laquelle on a envie de sauter d'une œuvre à une autre, d'un objet au suivant.
Il n'y a pas de sens de l'exposition.
Non, vraiment pas.
Comme dans les musées.
On peut passer d'un Picasso à une chaussure de clown, à une célèbre nana noire de Niki de Saint-Phalle, à un lion empaillé qui vient de manger son dompteur.
C'est comme un spectacle immobile, en fait. C'est pas du tout une exposition où vous êtes obligé d'aller d'une séquence à l'autre. Mais au contraire, ça va être une vaste déambulation où le public va pouvoir inventer son propre spectacle. On va lui apprendre beaucoup de choses, mais on va faire appel aussi à sa sensibilité, à son imaginaire. Mais vous savez, ce n'est pas des mots. C'est vraiment un vrai projet, moi, depuis des décennies. Je travaille à ce qu'on appelle le public, qui peut être une chose très froide. Ce sont ces personnes qui viennent, là, dans le noir, qui poussent la porte. C'est leur émotion qui m'importe.
Les visiteurs qui ressortent de la salle sont conquis, comme Marie.
Et moi, c'est mon monde merveilleux à moi, voilà, depuis toujours. Donc le cirque m'a toujours émue, j'adore le cirque. Et comme je veux y emmener mon petit-fils, en plus, je voulais voir si c'était de son âge. Voilà.
Et alors ?
Donc, oui, je vais revenir avec lui, hein, c'est clair.
Qu'est-ce que vous appréciez ?
De découvrir quand même que ce monde du cirque a donné lieu à des œuvres artistiques incroyables, au-delà des animaux qu'on avait quand même l'habitude de voir quand on était gamin. Mais c'est vrai que voilà, il y a un monde artistique, de peinture, de crobards, qui est extraordinaire. Voilà.
L'exposition En Piste est donc visible au MUCEM à Marseille jusqu'au lundi 15 mai prochain.
Merci Léopold Picot et bon retour à Marseille. Merci d'être passé dans ce studio. Alice Zénitaire, Camille Léon-Fucien, ces arts du cirque. Alors c'est loin de la pièce Éden hein, dont on parle aujourd'hui avec vous. Pourtant, ces forains, ces saltimbanques, ils n'ont pas non plus les codes de la culture académique. Et eux aussi, ils donnent de leur corps et de leur personne pour leur art. Ça vous touche ?
Alors moi c'est un art qui me touche beaucoup et il se trouve que je travaille en fait énormément avec des circassiens et circassiennes et même sur Eden qui est pas une pièce dans laquelle le cirque est entré mais mon assistante à la mise en scène Fanny Sintès elle est également comédienne et circassienne. Moi je suis dramaturge de cirque sur les projets de mon ami acrobate Mathieu Gary depuis des années et c'est vrai
donc
que
c'est un univers dont vous vous sentez proche. Hein.
C'est un univers en fait qui garde une magie. Il y a quelque chose dans ce rapport au corps et dans ce rapport au risque qui est pas le même. Enfin, ça existe dans tout spectacle vivant. Camille sera d'accord avec moi. On sait quand on monte sur scène, il peut se passer tout et n'importe quoi.
Mais on s'expose, oui.
Mais le cirque a un rapport particulier à ça. Et le cirque trad a en effet une histoire d'être dans les marges, mm-hmm. d'être rejeté aux portes des villes qui m'émeut aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de ce statut d'outsider, de presque hors la loi, on dirait dans Robin des Bois.
Camille, sur cette pratique du cirque aussi, c'est quelque chose qui vous touche comme Alice ?
Ah oui, moi, c'est l'utilisation du corps à outrance, finalement. Mais une gigamaîtrise aussi du corps m'impressionne. Enfin, ça m'a toujours impressionnée. Et nous, à l'école, on a eu la chance, justement, de faire des partenariats, notamment avec l'Académie Fratellini, pour rencontrer des circassiens et circassiennes. Alors, notre directrice avait trop peur qu'on se blesse, donc du coup, on pouvait lire des poèmes.
Plus de risques que ça.
On lisait des poèmes au pied du mât chinois, mais c'était quand même cool. Enfin, bon, voilà. Mais oui, c'est hyper impressionnant et c'est vrai qu'il y a... Oui, il y a une sorte de lien où on se dit, bah voilà, jusqu'où on amène le corps, jusqu'où est-ce que... Là, c'est un amour, c'est une passion. Et moi, je me dis, bah c'est rigolo. Non, c'est pas drôle. Les corps des lingères, ils sont cassés, par exemple. Et je me dis, bah c'est fou, en fait, ces deux mondes qui sont à l'opposé et qu'on peut absolument pas réunir, dans le sens où on peut pas du tout dire que les lingères, elles adorent avoir le corps cassé. Je dis pas que les circassiens adorent, mais je dis qu'elles font quelque chose qu'elles aiment profondément. Me touche, ouais, particulièrement.
Les uns et les autres donnent de leur corps pour leur art. De la poésie du cirque à la musique, on est à Dakar à présent pour le hit de la semaine.
Oh bébé, je suis fou de toi. Viens passer la soirée avec moi. Mon bébé, tu es la plus belle pour moi. Tu me rends fou, je suis dingue de toi. Ikele bébé, Moussoukouna. Viens passer la soirée avec toi, bébé. Yeah, my lover.
Bébé, tu le sais.
Tu as changé ma vie, bébé.
Bébé, tu le sais.
T'es la seule, mon bébé, à moi. C'est pour ça que les jaloux nous envient. Chérie Nanga, yeah.
Mais ne pas nous séparer.
Djarabi de vivre.
Mais ne pas nous séparer.
Oh mi amore.
Mais ne pas nous séparer.
Wallahi de vivre.
Et on vous retrouve en direct de la capitale sénégalaise, Sadio Doucouré, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous les auditeurs de Sur le Pont des Arts.
Alors Sadio, tu es journaliste à la rédaction Mandinkan, full day de RFI, et chez vous donc c'est ce tube de Sidiki Diabaté qui cartonne littéralement en ce moment.
Exactement Nathalie, il est sorti il y a moins d'une semaine, exactement 4 jours. Et il y a actuellement 500 000 de personnes qui ont allé écouter ce son sur les plateformes de téléchargement. C'est d'ailleurs le dernier tube de l'artiste malien de renom. Il cartonne parce que il y a beaucoup de sonorités qui se retrouvent là-dedans, mais également grâce à son titre qui accroche, qui est la Rumba Mandingue.
Alors Sadio, évidemment, on connaît tous la rumba congolaise. Là, c'est une autre facette de ce genre musical que Sidiki Diabaté nous fait découvrir.
Effectivement, Nathalie, d'où l'appellation même de Rumba Mandingue. C'est une manière pour Sidiki de démontrer que, bien que la rumba est née au Congo, en Afrique centrale, nous aussi, les Africains de l'Ouest, nous pouvons non seulement la consommer, mais également se l'approprier. Comme le dit l'adage d'ailleurs, la musique n'a pas de frontières.
Et oui, Sidiki Diabaté, c'est un artiste qui aime bousculer les frontières. Il fait aussi beaucoup de duos, Sadio.
Oui, Sidiki, chacun sait que c'est le fils du roi de la Kora, qui est Toumani Diabaté, décédé en juillet dernier à Bamako. Il a grandi dans ce milieu-là, c'est un artiste confirmé. Il a été nommé aux Grammy Awards en 2015, tout comme son père en 2006 et en 2010. C'est avec ce statut, forcément, des idées de duo ne manquent pas. Et oui, il a fait beaucoup de duos, Nathalie. Les plus récents sont avec Goulam ou avec la star sénégalaise Wally Seck. Un duo d'ailleurs que je vous propose d'écouter. Le titre, c'est Assurance.
Je t'aime. C'est ma préférée. Love you, baby, love you, baby.
Dylan Jigé.
Love you baby, love you baby, no nada más.
Assuré à vie, bébé Sadio, à vie aux fans de Sidiki. Il va se produire bientôt sur scène en concert. Ça sera où et quand ?
Nathalie, pour répondre à cette question, moi je propose juste que nous écoutions ça.
Le 8 février, Arena Betty.
J'ai bien entendu le 8 février, Sadio.
Exactement.
Arena Betty, ça veut dire quoi ?
Arena Betty, c'est juste pour dire que Arena sera pleine à craquer ce jour-là, le 8 février à la Défense Arena.
Il veut
montrer
donc.
Également que.
Ouais.
Exactement. Il veut montrer également qu'il y aura du spectacle parce qu'il faut oser le dire. Sidiki, c'est le premier artiste ouest-africain qui a osé se lancer pour la plus grande salle d'Europe avec ses 15 000 à 40 000 places. Et de plus, Nathalie, Sidiki n'a pas fait ce choix pour rien. C'est parce que...
Contana, Contana, c'est le jour de mon anniversaire. Contana, le Contana, c'est le jour.
C'est le jour de son anniversaire aussi, Nathalie. C'est un certain 8 février 1992 que le Love Singer est né à Bamako, dans la capitale malienne.
On peut dire qu'il a l'air du teasing et de la promotion, hein, c'est dit qu'il y a passé. Alors, tu viens de le dire, hein, le Love Singer, chanteur d'amour, hein, c'est un peu le surnom de Sidiki Diabaté. On ne va pas se quitter sans une petite chanson d'amour, Sadio ?
Absolument pas, Nathalie. C'est pour ça que je vous propose d'écouter ça. C'est Doussou Kouni.
C'est toi la femme de ma vie. Allez, qui rassonne. Jaloux, c'est Gotola. Du Mali au Sénégal, Koniwa, la Guinée. C'est toi que j'ai choisi. Du Congo au Gabon, Cameroun, le Niger. C'est toi que j'ai choisi. Mon bébé est validé. Ma bien-aimée. Tu es validé. Ma bien-aimée. Mon bébé est validé. Ma bien-aimée.
Sadio, on a encore besoin d'une petite traduction avant de vous laisser tranquille. Doussou Kouni, okay. Doussou Kouni, qu'est-ce que ça signifie ?
Doussou Kouni, ça veut dire petit cœur à Mandinka, Nathalie. Donc, à chacun son petit cœur. Hein. Le nôtre, ici et maintenant, nous, c'est sur le Pont des Arts, dont je salue chaleureusement les auditeurs.
Merci Sadio Doucouré. Merci à Malan Sonko qui était à la réalisation dans nos studios RFI Mandinka, Full Day, à Dakar. À bientôt, Sadio.
À bientôt, Nathalie, merci.
Alice Zénitaire, Camille Léon-Fucien, une idée de bande originale, peut-être pour une future représentation d'Eden, non ? Pour les représentations,
on ne sait pas, mais il est possible que ça parte en soirée.
Ah, ben voilà. Sidiki Diabaté vous aura inspiré. Merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui dans les studios d'RFI. Alice Zénitaire, Camille Léon-Fucien, Eden au Théâtre Public de Montreuil jusqu'à
dimanche 26.
Et la suite, eh ben, on la souhaite partout ailleurs. En France, sur le Pont des Arts, avec Damien Roucou à la programmation, Pierre Plantier à la réalisation. Vous nous retrouvez évidemment sur nos réseaux sociaux pour réécouter, réagir, commenter les émissions. Demain, cap sur le Brésil avec la dernière expo du grand Sebastião Salgado à Paris. Et avec une peintre brésilienne qui a beaucoup fréquenté les salons de Paris au XXe siècle, Tarsila do Amaral, à laquelle le musée du Luxembourg consacre une grande rétrospective. La commissaire Cécilia Braschi sera avec nous en studio. À suivre, le journal en français facile.
Sur le Pont des Arts, RFI.